Sète est une sorte d'île située entre la mer et les Tontos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre Sète.
On y va ?
Allez,
on y va.
Christophe Lallien, bonjour.
Bonjour Yves.
Avec Racontez-nous votre Sète, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux. Et surtout, nous l'espérons pour le plaisir des auditeurs de Radio Divergence. Christophe, vous êtes né à Sète et y exercez le beau métier d'enseignant en lettres parce que vous avez toujours été attiré par le théâtre et la poésie. Par la vie citoyenne aussi, celle qui consiste à essayer de comprendre comment vivre ensemble le plus harmonieusement possible. Mais dites-moi Christophe, pourquoi pas le choix du théâtre ?
Le choix du théâtre, comment est-ce que c'est venu cet univers-là ? Oui, donc effectivement, le choix du théâtre, ça a été une histoire d'abord par deux entrées. Il y en a eu une histoire de famille, on va dire. J'ai un frère aîné qui est féru de poésie, qui est auteur aussi, Eric Lallien, et qui écrivait. Et moi, j'étais toujours fasciné par. Il avait des années de plus que moi, 7 ans de plus. J'étais toujours fasciné par l'écriture, l'isolement et sortir des textes et puis de lire ces textes-là. Je trouvais que c'était très intéressant de la lecture à la lecture à voix haute et puis avoir un public, commencer à se faire entendre avec. À l'adolescence, quand on a une voix comme ça qui est ouverte avec des possibilités de proclamer des textes, c'était très stimulant. Donc je me suis amusé à travailler sur la poésie des textes de mon frère. Et puis je me suis bien pris au jeu, puis je suis allé à Sète, donc au conservatoire municipal d'art dramatique. Exactement.
À Sète.
Chez mademoiselle Marilyn Puech, qui a été ma professeure d'art dramatique, comme on l'appelait à l'époque.
Oui, c'est ça.
Voilà, et j'ai vécu donc quelques années de formation entre 15 et 20 ans, on va dire, 19 à peu près. Voilà, donc, et là j'ai découvert vraiment les planches, j'ai découvert le jeu théâtral, j'avais envie de connaître le plaisir d'être là dans ces univers-là. J'ai joué au théâtre Molière à Sète.
Bigre,
très beau théâtre, comme vous devez
le savoir. Oui, absolument.
Théâtre à l'italienne, oui. Qui a son cachet unique.
Absolument, qui est une très belle scène.
Très belle scène. Ouais. J'ai joué Georges Dandin de Molière.
Ouais.
Dans le prêt
de travail. Georges Dandin.
Ouais, exactement.
Moi, je l'ai mis en scène, Georges Dandin. C'est rigolo.
Voilà. Donc oui, voilà, le théâtre, c'était un univers. Puis après, les aléas d'un métier que j'aurais voulu peut-être qu'il soit effectivement comédien. J'ai continué un petit peu à Montpellier, après, au théâtre universitaire de Montpellier. Mm-hmm. Mais parallèlement, je travaillais toujours aussi sur Sète avec une petite compagnie qu'on avait créée. On faisait du café-théâtre. Mm-hmm. J'avais des copains de jeunesse avec que j'avais enrôlé là-dedans. Et on montait des petites pièces, des sketchs, des choses comme ça.
Oui, et pourquoi vous n'avez pas continué ?
Alors, j'ai continué assez un peu de temps quand même, parce que j'ai toujours eu les endroits après dans mon parcours liés à ma vie familiale. J'ai eu un garçon... j'ai eu une famille qui a été fondée par la suite. À présent, j'ai deux autres enfants, j'ai trois enfants. J'ai eu un parcours qui m'a amené à faire un choix, à un moment, effectivement, de carrière, qui était de dire comment on fait pour. Voilà. Alors, j'ai pas mis entre parenthèses, j'ai continué à travailler sur du théâtre. J'ai eu le plaisir de devenir enseignant, professeur de lettres et d'histoire dans un lycée professionnel.
Ouais.
Et donc j'ai passé le pas du comédien à celui qui incitait les jeunes à devenir aussi un petit peu à s'intéresser à l'art théâtral, au jeu.
D'accord. Mais dites-moi, j'ai cru comprendre que votre frère, qui donc a été votre inspirateur, déclamait des textes.
Oui. Enfin, il écrivait. Lui, il était plutôt auteur. C'était les deux faces d'une même pièce, d'accord, si on peut dire, en plus.
Ah oui, alors c'est lui qui...
Lui, l'auteur ne voulait pas trop parler.
C'est lui qui les écrivait et c'est vous qui les déclamiez.
Ouais.
Non, je disais ça parce que ça me faisait penser, je ne sais plus qui, quelqu'un qui a été... qui a fait comme ça, et parce que... Je sais vraiment, ma culture me lâche, mais il avait été très... Sa carrière et son plaisir après a été déterminé parce que quelqu'un se mettait au fond du jardin. Je ne sais pas Claudette, je ne sais plus qui, mais c'est... Et déclamait des textes, hein, et ça l'impressionnait énormément de ce truc déclamatoire.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Et alors, donc, prof de lettres, hein, ça vous a... Mais je croyais que vous aviez... Entre le théâtre et les lettres, comment ça s'est passé?
Ah ben, comment ça s'est passé après le parcours, c'est-à-dire que... Oui, je suis devenu enseignant et comme je disais, j'ai mis dans mon travail beaucoup d'intérêt, de projets, par le biais de projets, à travailler avec des élèves sur l'aspect théâtral. C'était du théâtre, j'aimais bien aussi le théâtre, on va dire, qui interpelle au niveau de la personnalité des jeunes, c'est-à-dire essayer de le faire travailler pour sortir un petit peu des choses qu'ils avaient un petit peu de nouées, hein, quand on est ado. Et j'avais découvert moi-même à mon niveau combien ça avait été une énergie qui m'avait permis de me libérer de tant de choses, de monter sur scène. Donc c'était un peu une thérapie pour les élèves. Et pour moi, c'était le plaisir aussi d'essayer un peu le travail par, comment dirais-je, un animateur, un metteur en scène de ce travail-là. Voilà, et c'était, et les passerelles sont toutes trouvées. Hein.
Ouais.
Beaucoup de formateurs de théâtre et de professeurs de théâtre sont d'excellents professeurs, en ayant été auparavant, je ne parle pas de moi, hein, bien sûr, mais d'excellents comédiens. Charles Dullin, dans les grands du nom du théâtre. Il y a un goût chez les profs d'enseigner le théâtre, qui ont été auparavant des acteurs ou des comédiens, et qui voilà, c'était un peu cet univers-là aussi.
Mais c'est marrant parce que moi j'ai fait aussi une trajectoire dans le théâtre, et je me rappelle une fois un prof de lettres qui avait dit je fais répéter une scène de Roméo et Juliette, ils n'y arrivent pas, etc. Voilà. Donc j'avais regardé et je voyais un jeune homme et une jeune fille de 14-15 ans qui osaient à peine se toucher et qui devaient déclamer un texte d'amour. Enfin, c'était pas rien. Et le prof disait « Mettez le ton, et mettez le ton !» Et moi j'ai dit « Non, il ne faut pas leur demander ça, demandez-leur de se donner la main. » Et alors, ils ont mis un temps fou à accepter, et là, tout s'est débloqué.
Ouais.
Bon, alors là, on a pas mal parlé de vous, on va parler un peu de Seth. Donc, je vais vous poser une petite série de devinettes, et je vais vous demander de ne pas réfléchir trop. Si Seth était un petit jeu, si Seth était une couleur, ça serait quoi?
On va vous dire le bleu.
Le bleu. Si Seth était un gâteau.
Ah, il y a un gâteau, le frescati. Ça c'est une création originale.
C'est quoi ça, le frescati?
C'est un gâteau particulier qui se fait à Seth et qui a été un peu dans ma jeunesse. C'est un peu l'image aussi de la pâtisserie sétoise, hein, c'est un pâtissier propre à Seth qui faisait ça, et ça a un goût fabuleux, quoi.
D'accord. Et si Seth était une fleur?
Si Seth était une fleur, alors là, je dirais quoi? C'est une colle, là. Je vois pas trop. Plutôt...
Allez, réfléchissez.
Je sais pas, du romarin.
Ah, du romarin, ben oui, pour
plutôt qu'un petit affaire.
Et alors, si c'était un prénom
Un prénom dit comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient, mais Mathilde. Ça
Mathilde,
sonne bien.
Voilà. Et si c'était une musique, une chanson
Si c'était une chanson Ah, ben, je pourrais que l'entonner, c'est...
D'accord, donc... Oui, alors, si j'ai bien compris, on va écouter votre chanson, et puis après, on en parlera un peu.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Donc vous avez choisi Brassens.
Ouais, mais bien sûr, Brassens, il y a autre chose sur la musique, sur cette et d'autres. Mais instantanément, forcément, Brassens est là. C'est un voisin de quartier. Enfin, moi, j'ai pas connu Brassens, évidemment, je suis d'une autre génération, mais sa famille habitait le quartier, la rue Henri Barbusse, à côté de là où ouais. Je suis né, moi, rue Fraternité. Et donc, Georges Brassens, le quartier en question, il a bien un plus dans les histoires de famille, de parents qui connaissaient, qui mon père qui a connu Georges Brassens aussi. Voilà, donc ça vient instantanément, Brassens, bien sûr. Alors, c'est un peu facile peut-être, mais c'est tellement vrai aussi.
Je ne sais pas trop, mais c'est intéressant parce que moi qui suis nouvel arrivant à Sète, hein, je sais bien sûr que... Mais j'ai l'impression que les relations entre Brassens et Sète n'ont pas été toujours si merveilleuses que ça.
Ah ben c'est ce que j'aime d'ailleurs aussi. Parce que justement, Brassens, cette personnalité, c'était pas quelqu'un qui allait faire partie d'un paysage totalement accepté. C'était le côté rebelle, et le rebelle qu'il a été dans ses textes, dans cette façon de vivre, il a d'abord été dans sa propre ville. Il y avait des choses qu'il n'a pas aimées, des comportements à son égard quand il a eu toutes ces histoires de jeunesse. C'était pas effectivement, et justement ça met en lumière quelque chose qu'on doit dire sur la ville. C'est vrai que quand il est parti, Brassens, il a mis du temps à vouloir revenir, revenir dans sa propre ville.
Oui.
Donc il y avait eu un malaise, il y a eu une déchirure.
Oui, oui.
Je peux comprendre ça, moi, j'entends ça.
Oui. Ouais. Et c'est marrant parce que quand il revenait, ça je le sais pour des raisons très particulières, personnelles d'une certaine manière, quand il revenait, il logeait chez sa sœur, je crois, ou dans sa famille, et sa compagne, Pupchen, de l'époque, allait à l'hôtel, et il a fallu très longtemps pour qu'on lui achète un appartement à Sète, dans lequel il venait avec elle, et c'est venu très, très tardivement.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit Sète et Brassens, et j'ai toujours eu l'impression que c'était une situation ambiguë. Alors maintenant, on peut plus rien reprocher à Sète par rapport à Brassens, mais je pense que c'était pas si simple que ça.
Ah non, mais c'est bien ça.
Voilà,
c'est bien
donc ville, c'est une ville un peu étrange, Sète, quand même, dans la relation avec ces gens. C'est,
ah oui,
c'est un port.
Oui. Ouais.
Et puis, c'est pas si facile de... Est-ce que vous avez trouvé que... Enfin, vous êtes né à Sète.
Oui.
Est-ce que on ne peut pas dire que ce soit une vie facile.
Ben, c'est une île, beaucoup, enfin du moins presqu'île, ou en tous les cas, mais il y a le comportement propre à des insulaires. Un peu retranché, un peu coupé du monde, un peu à l'écart, parce que ça a un côté paisible et apaisant et de maîtriser... tout un univers qui est le sien, dans lequel on est né, on a grandi et qu'on maîtrise bien. Donc là, c'est un peu... Et donc ça crée effectivement une envie de conserver ce joyau, tout à fait. Et paradoxalement, c'est aussi un port, et donc c'est forcément une ouverture à l'extérieur. Et donc il y a des fois, attirer, forcément... Parce que c'est une fonction première, elle a été créée pour être le port de la Méditerranée, hein, qui l'est devenu sur des domaines à l'époque de la fondation de la ville. Et de notre côté, Saint-Clair, la colline, retranchée, les baraquettes, le côté un petit peu sauvage, le côté un petit peu... on ferme un peu l'accès à la ville, quelquefois comme ça. Donc c'est ambivalent, et c'est ça. C'est un peu ces facettes-là. Il faut le tempérament, il se construit un peu dans ces deux directions. Alors, il y en a qui vont beaucoup plus pencher d'avoir une envie d'être, justement, prendre les mers et s'ouvrir au monde et à l'extérieur, et peut-être d'autres se retrancher et conserver ce qui existe et ne pas vouloir le faire bouger.
Ouais.
Ouais.
Et puis aussi, toutes les villes, évoluent, c'est-à-dire, elles ne peuvent pas rester ce qu'elles sont dans le temps. Mmh. Donc il y a le passé, et le passé de Sète, c'est quand même, c'était beaucoup la mer.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est quand même plus le tourisme.
Oui, tout à fait.
Et donc là, il y a j'ai l'impression que parfois, la ville... alors, je dis la ville parce que je vous disais tout à l'heure en aparté, avant qu'on commence l'émission, que je considérais que les villes avaient une âme et qu'elles nous parlaient. Et je pense qu'indépendamment des décisions qui sont prises par les responsables pour la ville, la manière dont les citoyens habitent cette ville, dont ils la font vivre, parce que les décideurs décident ce qu'ils veulent, et puis les citoyens font ce qu'ils veulent et vivent leur ville comme ils le souhaitent, je veux dire, c'est un dialogue un peu difficile entre cette ouverture sur la mer et puis ce qui est encore une ouverture sur la mer, qui est accueillir énormément de monde dès qu'il fait beau.
Ouais, mais oui, oui. Oui, ben, la situation touristique, effectivement, des fois, elle pose à l'heure actuelle cette question de dire c'est beaucoup trop, du surtourisme. Et j'avoue que effectivement, l'évolution là, dernière, c'est pas. On a perdu des éléments d'une culture qui était très, très populaire. Hein.
Oui.
Bien sûr, moi j'étais. Après, je peux pas faire de tirer de grandes analyses là-dessus parce qu'il faudrait s'appuyer sur des. Je sais pas si c'est très intéressant ici, le corps sociologique, etc. Mais moi, si on va taper sur du côté des émotions et de la. Il y avait une vie de quartier, par exemple,
oui.
qui est assez surprenante. C'est-à-dire que. C'est pas un grand espace, mais on crée nous-mêmes des subdivisions à l'intérieur de cet espace, qui
oui.
est du quartier haut, qui
oui.
est de la pointe, qui est de l'esplanade neuve, quartier révolution,
c'est
qui est des, etc. Moi, c'est ça que je voyais. Et donc, même entre nous, je parle des gens de quartier, ah ben, c'est un quartier un peu plus loin, c'était déjà un éloignement, presque
oui.
une déchirure.
Oui.
Bah, voilà, ma famille habitait, mes parents, hein, mon père était du quartier haut, par exemple,
oui.
et il a fallu un moment aménager et quitter le quartier haut pour lui, parce que sa vie de famille avec nous, ses enfants et sa femme, donc ma mère, ça a été de vivre au quartier Révolution. Mais c'était... à distance, quelques encablures, hein,
oui,
c'est rien.
C'est pas
mais
vraiment,
c'était ouais. un monde, quitter
ah
le
oui.
quartier haut,
ah oui.
c'était pareil. Et notamment nous aussi, quand, grandissant, on se rendait au quartier haut, voir ma grand-mère, donc, qui était toujours là. Il y avait les visites rituelles du dimanche, là. Et c'était les quartiers différents. On n'avait pas les mêmes relations avec les jeunes de notre époque,
ouais,
de notre
mais
génération.
C'est vrai que le quartier Révolution est un quartier particulier, avec la place, le fameux café, le Graffon de Manon, qui affiche cette superbe photo des copains d'abord avec Brassens, Ferré et puis
Brel.
Voilà. Et la Pointe Courte, c'est pas la même chose. Hein.
Non.
Et
non.
chacun a ses artistes.
Ouais.
Révolution a ça et la Pointe Courte a Agnès Varda. Donc
ouais,
c'est,
oui,
c'est assez rigolo.
Ouais,
et
ouais.
puis il y a la rue Jean Villard.
Ah oui, Jean Villard. Ouais.
Et Valérie avec le cimetière Marie.
Ouais.
Je veux dire, quand même, c'est une ville où il y a un peu de la culture.
Ouais, ben oui, c'est. Mais je pense que l'identité, elle est quand même bien, bien forte. Ce caractère insulaire, là, je le dis,
ouais.
c'est quelque chose qui a baigné, fait baigner les artistes qui ont éclos là-dedans
ouais.
Et qui ont poussé comme une fleur. Tiens, une jolie fleur comme une.
Ah tiens, voilà. voilà. Le quartier Vaux, c'est une jolie fleur.
Ouais.
Là, mais c'est pareil. Apparemment, il y a beaucoup d'associations. Hein. Le mouvement associatif est assez fort.
Ouais. Ah ouais. Mais ouais. C'est vrai que il y a un besoin de. On se connaît beaucoup parce qu'on se voit, la ville est quand même assez ramassée. Et
oui.
Les gens se croisent, on se voit deux oui. fois, trois fois, des fois, si tu
oui, oui.
vous baladez en ville, en cœur de ville. Nous, le jeu, c'était de ça quand on était gamin.
Oui.
D'ailleurs, c'était intéressant, c'est là où on pouvait se croiser et faire naître les petites histoires de cœur qui avaient chaque fois. Et donc, le monde est petit, effectivement. Mais les gens, après, bien se retrouver, effectivement, qui d'un quartier, qui d'un autre. Alors, au-delà même des quartiers, les activités, quand même, hein, culturelles sont. Il y a beaucoup d'associations,
oui.
des ouais. choses qui se mettent
oui.
en place.
Oui, oui.
Et il y a un besoin de travailler comme ça sur une. On sent qu'il y a une dimension humaine qu'on peut pousser plus loin
oui.
encore.
Oui.
Parce que ces connaissances existent et on a envie de faire quelque chose avec. Voilà.
Et vous avez raison, parce que moi qui suis un nouvel arrivant à Sète, je découvre un foisonnement. Qui fait que ça se chevauche. Des fois, on ne sait pas. On a des soirées où on ne sait pas trop où donner de la tête,
mmh.
parce qu'il y a des sollicitations qui sont très, très
oui,
diverses.
Oui. Ouais, ouais.
Dites-moi, Christophe, en quoi Sète vous rend-elle malheureux?
Ah, alors là, j'aurais des choses à dire un peu qui peuvent être. Voilà. Qu'est-ce qui me rend malheureux dans la ville? C'est de voir que. Combien, en fait, la gouvernance d'un lieu et le mode de gouvernance peut avoir, sans s'en rendre compte, peser sur une vie locale. Voilà. Mmh. On a. On est une ville méditerranéenne et on sait que souvent il y a des réseaux qui se créent de réunions et de quand on donne confère un pouvoir à des individus, c'est qu'ils le gardent et qu'ils le développent. Mmh. Et ben s'ils s'enracinent et si vraiment il n'y a pas de renouvellement, les choses sont établies. Alors vous allez me dire c'est pas
propre à Sète.
C'est pas propre à Sète. Mais après quand comme on a un joyau, un bijou, un truc qui est quand même un peu particulier, c'est qui vrai. Se distingue un peu oui, de vouloir en faire trop une vitrine et oui. trop une quelque chose qui ne serait justement qu'une vitrine, alors que oui. derrière il y avait des choses en magasin qui sont justement précieux et des choses précieuses à conserver, ben, de faire trop briller la vitrine, on perd beaucoup d'éléments. Et donc, je oui. pense qu'à l'heure actuelle, bétonner, comme c'est le cas sur une ville comme Sète, il va falloir peut-être changer cette optique. Il faut arrêter. Oui. Je veux dire, c'est un caillou, le Saint-Clair, avec un beau caillou. Hein Mais oui, si on continue à y bâtir dessus des barres d'immeubles à tire-larigot, ouais. ça va enlaidir l'espace. Ouais. Tout ça pour des systèmes de... On retombe sur ce qu'on disait, sur le tourisme, mais voilà. trop développé.
Mais c'est marrant parce que j'ai quelqu'un que j'ai reçu à votre place ici avant, on va dire, et qui me disait que fut une époque où à Saint-Clair, il n'y avait rien, pas d'arbres, que des barraquettes, hein, ouais. et où ils allaient jouer... Et que les gens ne voulaient pas qu'on plante des arbres parce qu'ils me disaient un jour, il y a quelqu'un qui a dit le jour où on plantera des arbres sur Saint-Clair, ça sera fichu. Ah, parce ouais. que les gens vont venir construire.
Ah oui.
Et d'une certaine manière, je pense que cette prédiction n'était pas fausse.
Oui, oui.
Mais alors, la contrepartie, c'est en quoi ça te rend heureux?
C'est la lumière. Il y a une lumière dingue.
Le bleu.
Ouais. Alors le bleu pas seulement. Hein. Le bleu, je le disais tout à l'heure, c'est évidemment la mer. Nous la mer, c'était les mers, les canaux. C'était mon enfance là-dessus. On se baignait dans les canaux au pont de la gare. On sautait du pont quand le pont tournait. C'était... Ouais. Donc en fait, on était vraiment des poissons. Hein. Ça, c'est un truc. Et donc ce bleu-là qui... Mais maintenant, là, un peu à mon âge, là, c'est ce que j'observe, c'est cette lumière le soir, ouais. cette lumière tamisée. C'est une ville de... c'est un cliché, je vais vous le ressortir, mais combien de peintres sont tombés baba devant cette lumière-là.
Oui.
Moi, quand je m'éloigne, parce que dans ma vie, je me suis éloigné de ma ville natale, hein, forcément, j'ai suivi ma carrière, tout ça, de professionnel, de travail qui m'a mené un peu ailleurs. Mais ce qui me manquait le plus, c'était, je vais vous dire, c'est pas tant le soleil, c'était la lumière.
Oui.
Voilà. Le soleil, bien sûr, on le dit toujours, mais la lumière. Ouais.
Bon, eh bien, on va dire qu'on va s'arrêter, puisque le temps qui nous était imparti est terminé. Christophe, je vous remercie beaucoup.
Ben merci.
Et je vous souhaite les meilleures lumières possibles pour l'avenir.
Merci à toi. Merci Yves.
Sète est une sorte d'île située entre la mer et les tantôt.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.